feu de tout bois numéro 187 du 11 mars, il me semble, on est bien le 11 mars, hein, 2016.
C'est bien.
Non, on n'est pas le 11 mars, mais
voilà, voilà,
c'est
quoi.
C'est ces feux de mois de mars.
Vous m'entendez là ou voilà.
Ah, mais on va voir si on s'entend tout le monde. Donc,
il faut régler les micros. Hein.
Alors voilà, bonsoir Xavier.
Oui, bonsoir Aline, bonsoir à tous.
On t'entend super
bonsoir,
bien.
Bonsoir, bonsoir.
Salut Adrien.
Salut à vous.
Oui, salut Jean-Bé, tu passes parfaitement. Et enfin.
Ouais, bonsoir. C'est feu de. C'est mal réglé les micros, j'ai l'impression.
Écoute, tout va bien, je t'assure.
C'est bon. C'est ces feux du mois de mars, hein, c'est bien ça.
Et alors mars, on confirme, donc on est bien le 10.
Voilà, 10 mars.
Et on est bien le en mars.
Voilà, 19h30 passé. Hein.
Et c'est ça, voilà. On a pris. Ben, je vous expliquerai un peu d'où vient cette musique qu'on a écoutée.
C'est feu en état de guerre. On est en état de guerre, la France. Hein.
C'est ça. Mais depuis des années, on est en état de guerre. Hein.
C'est vrai.
Ah, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Le Mali.
Non, mais c'est depuis cet été, ils ont commencé, je crois, à dire ça là, officiellement depuis cet été.
Un état d'urgence, état de guerre, état de. Je suis tout chose là. On va quand même commencer par un agenda conséquent, et bien sûr. Et puis ensuite, on parlera de la paix aussi.
Ben surtout, plus il y en a d'urgence, plus on est en guerre, plus il faut parler de paix. Hein, c'est sûr. Enfin, parler de l'affaire plutôt.
Alors, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe dans le Diwa, ou et au-delà même, ces prochains temps?
Oui.
Ah bah oui, c'est ça, alors.
Bien, voilà, alors, je sais pas, on n'a pas trop eu le temps de mettre de l'ordre dans nos dates. Mais il y a des choses qui commencent très prochainement, hein, c'est ça, le 11 mars, justement. Le 11 mars, c'est une date anniversaire, et justement, voilà, Jean-Bé, tu avais directement en attaque. Allez, avec toi.
Ouais, Jean-Bé adore les bonnes nouvelles, et donc demain, c'est le 5e anniversaire. On pourra chacun chez nous allumer 5 petites bougies pour fêter le début de la catastrophe de Fukushima Daiichi. Et oui, c'est une merveilleuse période qui s'ouvre, puisque cette année, on va pouvoir fêter le 5e anniversaire de la catastrophe permanente de Fukushima, qui a démarré seulement, elle n'est pas finie, elle a démarré le 11 mars, il y a 5 ans. Et le 26 avril, on pourra fêter le 30e anniversaire du début de la catastrophe de Tchernobyl. On a donc une année merveilleuse, en fait, pendant lesquelles on a 7 semaines pour s'approprier cette peur phénoménale qui est la nôtre, la peur de notre anéantissement. Par le nucléaire civil, hein, il n'y a pas besoin de faire la guerre nucléaire, puisque le nucléaire civil, c'est la guerre qui ne dit pas son nom. Et comme on est le coin le plus exposé, sans doute, avec tous les réacteurs qu'on a à côté de chez nous, c'est sans doute important qu'on se pose vraiment la question et qu'on prenne à bras-le-corps cette question en famille, entre amis, et qu'on dépasse notre peur, en fait, et qu'on fasse peut-être de notre peur le moteur de notre réveil. Et à l'occasion en fait du 11 mars au 26 avril, il y a un appel qui a été lancé par une compagnie qui s'appelle Brut de Béton, une compagnie théâtrale qui est basée à Clermont-Ferrand et qui fait un travail de théâtre documentaire depuis assez longtemps sur les questions de l'irradiation. Et cet appel a aujourd'hui tout un tas de signataires partout sur la planète. Et il y a tout un tas de spectacles en fait qui vont avoir lieu en France pendant les 7 prochaines semaines visant à questionner et à rendre visible cette question nucléaire. Et par exemple, près de chez nous, ce sera à Valence le 6 avril, un spectacle qui s'appelle Être liquidateur, à l'Atelier Libre à Valence. Mais sinon, vous pouvez trouver sur Facebook ou sur le site internet, pardon pour la pub, ou sur le site internet Brut de Béton de la compagnie, l'ensemble des programmations, en fait, il y en a partout en France. Voilà, donc il y aura tout un tas de moyens de participer à rendre visible cette question, à ouvrir dans l'espace public ce tabou monstrueux qui fait de nos vies, en fait, des hypothèques complètes. Et voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps. Bon anniversaire à tous nos amis irradiés, à tous nos amis malades et à nous tous qui le seront tôt ou tard.
Donc on sait d'ores et déjà que ben voilà qu'il y aura d'autres, alors un rassemblement dont on parle tous les ans, c'est à Gap le 26 avril, hein, mais donc on aura l'occasion d'en reparler, une commémoration régulière que les antinucléaires gapensais et gapensaises tiennent, et ben voilà, on entre donc dans cette période de commémoration.
D'autres dates.
D'autres dates. Et moi, j'avais envie de vous présenter ce soir ce qui va se passer au Café Théâtre Andarta Adi, qui est aussi, il faut bien le dire, le siège de l'association, entre autres les Locomotives La Paix, qui participe carrément à la présentation de cette émission de ce soir. Et donc le Café Théâtre Andarta qui fait aussi d'autres... qui a aussi d'autres choses. Donc, le 11 mars, justement demain, il y a un bal folk. Il y a un concert le 12 mars. Alors c'est un bal folk qui a lieu très régulièrement, hein, du vendredi soir, une fois par mois, je crois. Donc, les habitués reconnaîtront. Tu sembles l'apprendre, Pierre.
Ça
vaut le coup de faire des trucs réguliers parce qu'au bout d'un moment, mais des fois au bout d'un an, ou plus peut-être, je sais pas exactement, hein, hop, on percute et ça va continuer.
Non, il y a des chances vraiment,
que ça continue,
c'est pas
mais
bien. Spectateur
bien
et
sûr, bien
artiste.
Sûr. Hein, le plancher de le sol de l'Andarta devient un plancher. Le lendemain, on écoutera, on aura le plaisir d'écouter Alexis et Guy. Qui joue avec Emma Kyo. Et alors c'est ce qu'on entend en ce moment et ce qu'on a entendu dans le premier morceau. Alexis Egui est un violoncelliste qui joue dans deux jours, demain à Andarta et dans trois jours à Moscou devant 600 personnes. Donc on a un peu de la chance à Andarta de l'écouter alors qu'on sera une quarantaine si la salle est pleine, et la salle sera certainement pleine. Egui est un violoncelliste vraiment très reconnu dans le monde de l'improvisation aussi, et dans le monde de la musique de film.
Et c'est quoi son répertoire ?
Alors il y a plusieurs musiques qui ont été composées pour les films qui s'appellent Chercher Hortense, Le Grand Alibi, Je pense à vous, de Raoul Peck, L'École du Pouvoir, Meurtre à Paco, Moloch Tropical, ça dit peut-être... des choses, un film de Iliana Lolic, Je ne dis pas non, un film de Marina Devan, Le Petit Pousset, ou de Olivier Van Mandergem, Rondo. Bon, on voit, c'est encore des blockbusters. Des blockbusters. C'est du classique et de l'improvisation. Voilà, ça c'est. Mais ça, donc, c'est le 12 mars à l'Andarta. Donc, n'oubliez pas de réserver. Hein. Je vais rappeler d'ailleurs là, pour l'occasion, le numéro de téléphone de l'Andarta. Je ne le dirai qu'une fois au cours de cette émission. C'est le 0787. 930-796. Allez, une deuxième fois, 0, si vous appelez de France, 787-930-798-96. Voilà, ou en tout cas, le plus sûr, c'est de passer à l'Andarta pour réserver, et bien sûr, le plus vite possible. Un atelier de réflexologie aura lieu le 14 mars à 10h, et c'est le premier d'une série de deux ateliers. Le suivant aura lieu le 21 mars, pardon. Voilà, le 18 mars à 20h30, il y aura un bal. Alors ça, c'est une première. Voilà, je vois vos mines étonnées. Il y a un bal, mais ça va être une nouveauté. Il y aura un bal populaire très régulièrement à Andarta, le premier de la série.
Tous les 14
c'est le
juillet.
18 mars. Ben là, c'est le 18 mars. Donc en fait, on va. Et le 18 mars, il y a aussi un café philosophique, le café éco-philosophique. Souvenez-vous, dans Feu de Toutbois, on a reçu Jean-Loup qui nous l'a présenté un peu, mais qui tient ce café philosophique. Tous les vendredis, et dans le cycle la prophétie d'Iwaze. Alors je ne résiste pas vraiment au plaisir de vous lire le projet du 23 mars 2016. Donc c'est une porte ouverte là carrément qui a lieu de 10h à 18h, hein, mais qui est par Jean-Loup Pinto, donc l'animateur, transducteur culturel, ainsi se nomme-t-il, du café éco-philosophique sur un projet pour le Diwa, tous les mots sont importants, hein, pour les 7 générations à venir. Donc voilà, depuis des années, les rencontres de l'écologie, vous connaissez, hein, esquissent un logiciel d'adaptation biosphérique. Vous étiez au courant, hein, bien sûr, ça fait des années que ça dure, cette esquisse de logiciel d'adaptation biosphérique. Maintenant, nous allons passer aux travaux pratiques, à l'échelle de la matrice d'Iwaze, continue le texte, et inventer, enfin, en plongeant dans notre exo-mémoire, humanité. Venez nombreux, nombreuses. Donc ça, ce sera le 21 mars, donc beaucoup d'humour en perspective, bien sûr, mais aussi des sujets de réflexion très, très sérieux. Le 23 mars, eh bien, il y aura... c'était ça. Voilà, alors un concert à ne pas manquer. Le lendemain, le 24 mars, on lâche les chiens. Un concert DIY punk. N'hésitez pas à venir avec votre distro, avec vos amis aussi. Et on passera sans transition au voyage lyrique d'une mezzo-soprano avec un concert le 25 mars à 20h30, vraiment en Dartal. Les soirées se suivent et ne se ressemblent pas, à part bien sûr dans l'animation et la bonne humeur de ce lieu. Et c'est le début d'un cycle classique là, à propos de l'opéra. Donc avec une mezzo-soprano le 25 mars. Le dernier événement que j'ai annoncé pour Andarta et pour ce mois de mars, c'est le 26 mars à 20h30, un concert avec Bruno. Bruno qui, il me semble, a fait une interview, est-elle déjà passée à Radio Diwa ou peut-être pas, mais Bruno qui est l'inventeur des métadrums, cette percussion qui est une sorte de petit frère du hang. Mais qui, comme son nom l'indique, va au-delà de la percussion. Peut-être que le métadrum est à la drum, à la percussion, ce que la métaphysique est à la physique. Et alors, donc, il nous reste à inventer le patadrum, qui sera une sorte de. Qui sera au métadrum, ce que la pataphysique est à la métaphysique. Enfin, bon, je m'égare un peu. Il y a toujours à l'Andarta régulièrement des ateliers vocaux, développer sa voix, franchir les barrières. Ce sera le 31 mars à 10h, voilà pour la dernière date du mois de mars. Bah vraiment, j'ai dit beaucoup de choses sur l'Andarta.
Ben ça, alors oui, et du coup, t'as tellement dit de choses que moi j'ai complètement été absorbé et je n'ai pas saisi les deux dates qui sont intercalées dans ton agenda. À savoir que du coup, ça m'a fait penser que.
Il y a d'autres dates intercalons maintenant.
Voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser que le 13 mars, du coup, c'est dimanche matin, et Bruno devait être là à un massage auditif. Enfin, du coup, il devait jouer de la musique et puis une personne qui s'appelle Sophie fait un massage en même temps en rapport avec l'improvisation musicale. Malheureusement, Bruno ne sera pas là, mais il y aura un remplaçant, une remplaçante et du coup, ça sera quand même très réussi. Et ça sera au bocal à Minglon, dimanche matin, mais je ne me rappelle pas exactement l'heure. Et puis le 26 mars, mais ça c'est déjà plus loin, et puis on aura l'occasion d'en reparler, il y aura une journée nationale de mobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et il y aura une action sur Valence à la place du marché, rendez-vous à la place du marché, c'est le matin, et ça je pourrais préciser l'horaire la semaine prochaine, mais je crois que c'est 10h. Il me semble bien que c'est 10h à la place du marché sur Valence.
Donc quel marché?
Le marché du dimanche matin.
Bon, ben voilà. On
Alors je crois que la place s'appelle vraiment la place du marché, comme a dit qu'il existe une place du marché, tu vois.
Oui, mais oui, sur laquelle il n'y a pas forcément de marché.
Sur laquelle il n'y a pas forcément de marché.
Donc, on ne s'y trompe pas, mais là c'est bien de Valence dont il s'agit. Le 12 mars, encore un événement, allez, on va sortir du Jiwa proche en allant dans le Barnavois lointain, puisque c'est au-delà de Barnave, mais bon, déjà vous arrivez à Barnave. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose de Naissance?
C'est une pièce de théâtre, moi je peux dire ça, avec 8 femmes sur scène. Moi je l'ai vue l'année dernière et j'en avais parlé en bien, et je pense que c'est toujours très bien.
Voilà, c'est 8 femmes qui racontent
d'une histoire d'accouchement. Et naissance, du coup.
très souvent de naissance, donc à ne pas manquer, sachant que info, il n'y aura pas de garderie organisée au Cerf cette fois-là, hein, mais puisque le spectacle est déconseillé au moins de 12 ans, donc voilà, il y aura de prochaines dates qui ne sont pas encore fixées à l'espace social Adi, où là il y aura peut-être des gens qui se bougeront pour offrir la possibilité d'une garderie lors de cette soirée théâtre consacrée à la naissance.
Est-ce qu'il y a d'autres brèves à annoncer?
Plus que des brèves, des dates, hein, carrément. Là, on en est aux dates. Hein, alors, on va quand même annoncer ce qui se passe à la bonneterie des puces de couturière. C'est le 20 mars, de 10h à 18h, toute la journée, le 20 mars étant peut-être un dimanche. Mais c'est pas écrit sur le papier, voilà, tant pis pour elles auront qu'à écrire les noms.
Un dimanche.
Videz vos malles à trésors et revendez vos merveilleux tissus, boutons, colifichets et fanfreluches. Venez farfouiller à la recherche de la perle rare, échanger les astuces de couturière ou de tricoteuse. Vous pourrez aussi déguster une soupe chaude à midi. On cherche toujours, c'est toujours bourré de contrepétries leur texte. Donc voilà, je vous laisserai les trouver vous-même. Tarif exposant, adhésion à prix libre plus 1 euro par mètre linéaire. Il faut s'inscrire auprès de Marianne à la bonneterie. Et le 25 mars, donc là sera peut-être un jeudi, si je sais pas, il y aura un concert de Gamal à 20h30 cette fois, Gamal dont on a déjà parlé. N'hésitez pas à vous référer comme pour naissance à Feu de Toutbois ou à Radio Diwa, à taper ça sur le moteur de recherche. GAMAL, et là ce sera Voyage au pays de l'infinie douceur où les voix s'acheminent au fil des mots vers un profond repos. Le silence sublimé enlace les chants, deux voix s'épousent, tes danses comme les feux sur l'eau. Donc avec Yannick, bien sûr, fidèle de Radio Diwa, au chant, au Shruti Box, au Juan, au Dotar, au Pondori, au tambour et à Loudou, et avec Cécile Pagès, donc l'autre binôme de Gamal, au chant, au saz et au tambour. L'entrée sera de 10€. Plus le prix de l'adhésion pour les personnes qui ne sont pas encore adhérentes à la bonnetterie. C'est à l'étage des Couturières et c'est au 8 rue des Aqueducs à Die. Et je répète leur devise quand même qui nous fait beaucoup plaisir à Feu de Toutbois, c'est faisons fil de tout poil.
Donne l'adresse, quelle rue, la
bonnetterie? Rue des Aqueducs.
Ouais, c'est ça.
Voilà, en montant au fond d'eau. Bonne découverte si vous ne connaissez pas encore ce lieu qui est magnifique. Et dans lequel il y a régulièrement aussi des rendez-vous couture tous les mercredis après-midi et début de soirée à prix libre. Et avec moult conseils, n'hésitez pas pour vos ourlets, vos déguisements, etc.
Est-ce que je donne une première information, peut-être terminer sur les dates?
Allez.
Fini les dates. Les dates, moi j'ai un truc, sur Grenoble.
Alors. Ouf. Vas-y. Allez.
Pour ceux qui seraient à Grenoble, le mardi 15 mars, bah, y a notre ami Jean-Paul Vienne, là, du Mouvement de la Paix, qui fait sa conférence sur Bertha von Suttner, que tous les pacifistes connaissent. Hein,
surtout les pacifistes du Diwa, vraiment.
On a une spécialiste chez nous, c'est Connie, mais qui n'est pas avec nous en ce moment.
Non, qui est prise et qu'on salue, qui nous écoute peut-être, mais qui n'a pas pu se libérer ce soir. Mais salut à toi, Connie. Une autre date encore, le 13 mars, alors c'est pas à Die, je n'y ai pas pensé non plus, mais c'est à Roibon, à la ZAD de Roibon, où cette annonce a été coupée en direct la semaine dernière, vraiment, donc c'est bien confirmé, hein, le 13 mars, dimanche prochain, un petit groupe qui est nouveau, dont personne n'a jamais entendu parler, les René Binamé, qui joueront sur la ZAD, donc c'est toute une journée où il est possible de venir faire du week-end ZAD, quoi, un peu, aller comme ça en famille ce dimanche.
Comme on irait à Center Park, sans Center Park. Quoi.
Sans Center, merci.
Pour Bertha von Suttner, entre parenthèses, c'est le 15 mars à 14h30. Alors ça se passe à Canopée, c'est l'ex-CRDP, pour ceux qui connaissent. C'est 11 avenue du Général Champion. Alors 15 mars, 14h30.
Tu fais de la réclame pour
les gens? Il y a plein de trucs, hein. Mais bon. Non, il y a des trucs qui se passent à Lyon, si on peut le dire, mais en vitesse. Vous allez sur le site, ça se passe Place de la République très souvent, parce qu'ils veulent la transformer en vegan place. Et vous allez sur le site de l214.com, il y a tous les trucs. Il va y avoir un happening pour un vrai salon de l'agriculture. Il y a les associations pour les fermes des animaux, les véganes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les végétaliens.
Et c'est-à-dire les personnes qui sont contre toute exploitation animale.
Et qui sont pour le respect des animaux. Ouais.
Voilà.
Ils ne sont pas contre. Enfin,
ils sont contre toute exploitation et toute forme d'exploitation animale, sachant que les humains font aussi partie des animaux.
Des animaux.
Voilà, contre toute exploitation. C'est l'occasion, puisque voilà, nous sommes dans une émission à tendance pacifiste, de rappeler la phrase de Tolstoï, tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des guerres, et qu'effectivement, les deux sujets sont liés, ce qu'on fait subir à nos frères et sœurs animales non humaines, on le fait aussi subir, on fait subir la même chose sans beaucoup de difficultés à des humains.
Tout en étant encore mangeur de viande, effectivement, je partage ta citation de Tolstoï.
Voilà, que moi j'ai prolongé aussi. Tant qu'il y aura des élevages, il y aura des prisons.
Alors, et
voilà,
mais ça tombe bien, on est aussi contre les prisons.
Pardon ?
C'est toi qui abats les animaux, tu leur recours après.
Pas vraiment, mais ce que je veux dire, je participe en tant que.
Tu la partages mal,
la chaîne.
Tu la partages mal, la citation.
pas de jugement, Pierre, je t'en prie.
Non, j'imagine.
on partage en fait, comme on peut. On peut. En plus, tu nous fais vraiment, voilà, Xavier, je te remercie vraiment d'être présent. Que là, je vais te laisser mon tabouret. Peut-être on a encore pour l'instant qu'un seul tabouret à Radio Diwa, mais bon, on espère que les choses changeront bientôt si je me prends en main. Mais veux-tu t'asseoir?
Oui, ça me fera peut-être du bien pendant les 5 minutes qui restent. Voilà. Parce que je vais peut-être dire mon texte. Voilà, bientôt. Tiens, alors voilà. Merci.
Ce siège, le temps que tu te mettes en place, que tu nous livres
donc,
cette première information.
C'est en lien avec la formation que donnait tout à l'heure Adrien là, sur Notre-Dame-des-Landes. Donc là, c'est un article que je sors de l'âge de fer. Le dernier, là, en fait, le numéro 106 de mars 2016.
Donc là, en fait, t'attaques l'émission,
ouais,
en fait. Voilà, dire, sans sommaire. Alors, on va quand même faire un petit sommaire rapide.
Ah, vas-y.
Pour, parce que du coup, là, voilà, on va commencer par l'âge de fer. Et alors, ensuite, on parle de quoi?
Donc là, j'ai un premier article avec Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, et tu auras un deuxième article après, c'est toi qui viendras d'ailleurs, comme ça tu pourras aller
Issu du même journal, L'Âge de Fer, et c'est à propos d'Amnesty International qui a décortiqué l'état d'urgence en France. Voilà, deux articles assez courts.
Voilà, moi j'aimerais vous présenter quand le moment sera venu. Alors vu que cette émission est très chargée, ce sera peut-être pas cette fois, mais bon, j'espère. Alors je vais le dire tout de suite comme ça. Au moins, Yougoslavie, chronique d'une résistance pacifique sur Internet du 24 mars au 24 juin 1999. Un livre qui s'appelle Un printemps sous les bombes de Seka Pjanović et des internautes aux éditions 0h00.com. J'ai trouvé ce livre et je l'ai lu en grande partie. Et j'ai trouvé que voilà parmi ces témoignages par internet et pas que, il y avait une résonance avec des choses qu'on vit actuellement et qu'on vit tout le temps à chaque fois qu'il y a des bombardements, qu'il soit s'agit donc j'aimerais vous faire part de quelques lectures qui nous remettent aussi les pieds sur terre ou un peu sous terre aussi dans les abris, mais aussi avec voilà, avec cette mémoire qu'on a de cette guerre qui a été menée par l'OTAN à cette période historique précise. De quoi va-t-on parler encore?
Il y a dans le dernier numéro de Nuit Pacifiste, qui est très riche, il y a plein de trucs. Il y a notamment un article de... Comment il s'appelle? Andrew Fersten, c'était un militant de l'ANC en Afrique du Sud, là. Et actuellement, il est directeur de l'Observatoire de la corruption en Angleterre, là, à Londres. Il a fait un article, justement, sur le commerce des armes et la corruption. C'est un beau truc. Mais il y a plein de petites brèves qu'on lira, avec aussi le texte fondateur d'un collectif anti-guerre, où d'ailleurs, il faudra qu'on en... On le lirait à prendre la décision si les locomotives l'appellent signe.
Suspense.
Il y a le Diade féminin, pacifisme et numérique. Si, il y a des petites brèves aussi que j'ai repérées des Nations
Unies.
Bon,
donc on épluchera pour vous l'Union pacifiste du mois de mars, qui, on le rappelle, est disponible à Andarta en consultation. Donc n'hésitez pas, ou sur la table de presse des locomotives la paix. Alors, qui n'a pas eu lieu samedi dernier, hein, il faut bien le dire, alors que c'était bien le premier samedi du mois. C'est pas vous qui vous êtes trompé, c'est bien tout ça. Simplement, nous, nos plus plates excuses, nous pensions qu'il allait pleuvoir, ou alors nous étions malades, enfin nous avions tout un tas de bonnes excuses, nous étions déprimés, etc.
Il y a un problème de voiture aussi.
Voilà, nous étions non motorisés, nous étions des
les voitures aussi sont déprimées.
Voilà. Mais nous nous étions dit tout plein d'allants, nous le reportons d'une semaine, ce qui fait que nous pouvons vous l'annoncer. Là, quoi, voilà, je vois ta mine.
Attends, c'est toi qui...
C'est-à-dire que quelques personnes des locomotives La Paix se sont engagées, Pierre, tu n'es pas du tout engagé dans cette histoire, se sont engagées à faire quand même la table de presse des locomotives La Paix, samedi qui vient, donc voilà, ce décalage d'une semaine réactualise les choses, puisque c'est samedi qui vient. Donc,
En promo, alors, il y aura des affiches, des anciennes affiches de l'Union pacifiste dessinée par Cabu.
Contre la guerre, bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, des affiches très connues.
Qu'on montrera gratuitement, évidemment, mais ceux qui veulent en acheter... pour en acheter, mais là il faudra banquer.
Là ça va.
On a besoin en ce moment de s'abonner.
On les fonds historiques.
À Planète Paix, Alternative
Non-Violente. Des grandes affiches qui n'ont pas été pliées, qui sont magnifiques et tout ça. Pardon, on se parle par-dessus. Merci. Alors le sommaire. Adrien, tu avais un sujet tout.
Non, j'aurais une petite brève qui sera très brève.
Voilà. Ok. À quel sujet?
Notre-Dame-des-Landes.
Ok. Voilà.
Moi j'aurais une grosse info que je traiterai de manière très brève. C'est un petit de Calais.
À propos de Calais, merci. On retrouve plein de sons sur les feux de tout bois passés, hein, pour ceux qui ont loupé les précédents épisodes. Eh bien, écoute, Xavier, le sommaire étant fini, est-ce qu'il te reste un peu d'énergie, toi, pour. pour nous présenter cet article. On t'écoute.
Notre-Dame-des-Landes, deux points, les cachotteries du préfet. Une quarantaine de personnalités, parmi lesquelles Naomi Klein, Pierre Rabhi et Éric De Luca, ont lancé le 21 février sur le site Mediapart un appel demandant à François Hollande de renoncer à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au nom du respect des engagements pris lors de la COP21. L'objectif de maintenir l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés doit désormais être mis en œuvre, écrivent les signataires. Ils ajoutent qu'il, c'est-à-dire l'objectif, n'est pas compatible avec la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes qui générerait un surcroît d'émissions par l'aviation, avec en plus le bétonnage d'une des plus grandes zones humides et aussi la destruction de fermes paysannes. Je referme les guillemets. Il conclut le rappel en contestant la qualité des études ayant mené à l'autorisation de la construction de l'aéroport. Quelques jours auparavant, des révélations du Canard enchaîné prouvent que l'État a dissimulé des informations, j'ouvre les guillemets, contredisant les discours officiels sur l'impossibilité d'agrandir l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique et la nécessité de le transférer vers Notre-Dame-des-Landes, je referme les guillemets. Une note de 2014 de la Direction régionale de l'environnement, la DRIL, destinée au préfet, qui l'a tenue néanmoins secrète, démonte les arguments écologiques utilisés pour justifier le transfert, selon le journal satirique. Le document indique par exemple que, ouvre les guillemets, l'allongement de la piste de l'aéroport de Nantes-Atlantique ne présente pas de risque pour la faune de la réserve naturelle. Je referme les guillemets. Un aéroport bon pour l'environnement. Un autre argument mis en avant par Manuel Valls est battu en brèche. Le 16 octobre 2015, le Premier ministre avait affirmé au Sénat que le transfert de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes était, entre guillemets, bon pour l'environnement, je referme les guillemets, car il permettrait de préserver trois zones Natura 2000 situées à proximité de Nantes-Atlantique, dont le réservoir à oiseaux du lac de Grandlieu. Point, je ferme. Hein. Alors ça, il y a Loïc Marion qui est directeur de la réserve qui s'élève en faux et qui dit que jamais on a constaté que la proximité de l'aéroport était une gêne pour les 270 espèces d'oiseaux. Au contraire, dit-il, ce lac est actuellement protégé par une zone verte tampon qui disparaîtrait si l'aéroport était transféré. Les perspectives d'urbanisation de cette zone, rendues possibles par une récupération de l'emprise territoriale de Nantes-Atlantique, sont d'ailleurs un enjeu du dossier. La dissimulation d'informations favorables aux solutions alternatives à Notre-Dame-des-Landes plombe un dossier déjà lourd et apporte de l'eau au moulin de la CIPA, qui, depuis des années, dénonce un dossier, ouvrez les guillemets, basé sur des manipulations et des mensonges, je ferme les guillemets. Donc la CIPA, je cite, c'est l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport. Voilà, donc l'article, je viens de le terminer, il est écrit par Nicole Gélot.
Et merci Xavier, et oui, je t'interromps pour t'as peut-être encore des choses à dire, mais
non,
j'avais, d'accord, très bien, et ben alors je ne t'interromps pas, c'est encore mieux. J'avais une petite brève qui est plus que, qui est une grande nouvelle, puisque en fait, on a appris hier, par l'intermédiaire du Canard enchaîné, que les travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou qui ne se fera pas, mais en tout cas, ils sont déjà reportés d'un an avant d'être complètement annulés, et ça c'est officiel. Dans le sens, ou au moins un an, puisque il se trouve que la France a saucissonné son.
Oui, merci.
A saucissonné son projet de construction d'aéroport, puisque l'aéroport comprend aussi une partie de tram, plus du bétonnage à tout va pour faire des autoroutes, des relais d'autoroutes, des machins, ouais. Des bidules, enfin voilà. Un tas de saloperies grises et du coup ça passe pas en fait auprès de l'Union Européenne qui a repéré un peu l'esbrouf Et ça fait déjà quelques temps qu'ils se sont fait épingler en France, mais ils ont quand même, ils nous ont encore sorti leur ânerie, comme Valls qui disait que de toute façon, si on empêche la consultation prévue, donc qui a été lancée il y a peu de temps, il n'y aura pas d'alternative et les travaux démarreront de toute façon à l'automne. Donc de toute façon, ça veut dire que la consultation ne sert à rien, mais ça on le savait déjà. Et donc le problème, c'est qu'ils se fourrent les doigts dans le nez. Et les yeux même, et que du coup, je vous invite à lire Le Canard Enchaîné si vous voulez savoir plus de détails sur les tenants aboutissants administratifs de ce retard et de ce même future annulation certainement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais venez quand même le 26 mars à Valence, ça vaut le coup quand même.
Oui, ne serait-ce que pour en savoir plus, pour voir un peu et savourer cette victoire, comme tu dis, pour l'instant, momentanée, mais c'est une bataille qui préfigure que même certainement, allons plus loin dans ton enthousiasme, le capitalisme va être fini et toutes les guerres qu'il porte en son sein comme les nuées portent l'orage, donc bientôt fini, Faute de tout bois continuera malgré tout, hein, tant qu'il y aura de la radio FM et qu'il y ait suffisamment low-tech pour qu'on puisse à un moment se passer de pas mal de cochonneries néo-technologiques actuelles.
En attendant ce futur radieux... nous sommes dans un présent toujours un peu grinçant parfois. Et à Calais, ces derniers jours, vous l'avez sûrement entendu, il y a eu tout un tas de personnes qui se sont, et je crois qu'il y a eu l'appel des 800 personnalités se sont regroupées autour d'engagements, de mots très très forts pour dire tout le mal qu'elles pensaient du mauvais traitement général infligé à la population réfugiée dans la région de Calais par le gouvernement, sa police et l'absence de réponse responsable aux problématiques que les gens vivent. Et cette semaine, le gouvernement a donc décidé de passer enfin à l'acte et de détruire une partie du bidonville, la jungle. C'était insoutenable pour le gouvernement français qu'un grand nombre de réfugiés puissent s'organiser de manière relativement autonome dans une vie à l'écart de la ville de Calais, puisqu'elle avait été... encourager cette jungle en fait par ce même gouvernement 14 mois ou 12 mois auparavant, et 12 mois plus tard on chasse les gens en fait, et on utilise pour ça tout un tas d'arsenal policier, civil avec de jolis gilets aussi, et on fait de fausses promesses aux gens en leur disant qu'il y a des solutions après leur expulsion, soit dans le camp de containers qui est déjà saturé, donc le camp de containers dont on avait déjà un petit peu parlé, soit dans les tentes bleues là-bas juste au nord, mais qui sont elles aussi déjà remplies, soit dans les bus, montez dans les bus, on vous dit il y a 3 places là-bas, ça va se libérer, et on promet donc aux migrants, puisque c'est sous cette appellation qu'on nomme ces milliers de gens qui sont des gens comme nous tous, et qui s'appellent migrants parce que malheureusement ils sont dans une situation temporaire de migration.
Ou d'installation. Très bien les accueillir.
On pourrait les appeler installants plutôt parce que migrants.
On fabrique des terroristes en ce moment.
On fabrique déjà
après,
des précaires.
Et après on a droit à l'état d'urgence.
Et ces gens par exemple, on les fait monter dans des bus.
Quand ils en auront marre, tu vas voir.
On les emmène dans des bus au centre de la France ou en Alsace ou ailleurs, mais loin, loin, loin de Calais pour reporter le problème ailleurs, pour invisibiliser le problème. Et en 2014, il y avait eu plusieurs centaines de personnes expulsées de Calais. En 2015, il y en a eu plusieurs milliers. Et ben en 2016, certainement la France pourra battre des records d'expulsion puisqu'on s'attend à une hausse conséquente des migrations en Europe de la part des pays dans lesquels nous menons nos guerres pour notre confort capitaliste. Et donc ces personnes se retrouvent tôt ou tard chez nous, disons derrière les frontières qui s'appellent chez nous la France, et du coup il faut les expulser d'ici. Et donc on essaye de les invisibiliser avec une certaine violence policière au passage. Donc on pourra trouver sur le blog Passeurs d'Hospitalité, j'en ai déjà parlé mais je recommande à nouveau de consulter ce blog qui est super informatif, et il y a pas mal de vidéos notamment très récentes là, qui ont été mises en ligne et qui... voilà, qui illustre très simplement, qui témoigne des réalités sales qui sont menées par ceux qui sont censés nous représenter et nous gouverner, et qui manquent
profondément d'humanité. Voilà, donc il est important de pouvoir voir, témoigner, de partager, de faire œuvre de solidarité et d'assumer que nous sommes illégaux chaque fois que nous essayons de nous aider et de nous soutenir dans ce monde de merde.
Nous sommes illégaux quand nous essayons de nous aider ?
Nous sommes illégaux. On nous rend illégaux avec tout un tas de règlements, de lois. Il est interdit aujourd'hui d'héberger, de donner à manger, de faire passer en bagnole un migrant.
Ça, c'est l'hypocrisie, c'est scandale.
C'est un scandale, mais que de la même manière qu'il était interdit de cacher des juifs il y a 70 ans. Voilà, donc aujourd'hui, il est interdit de faire ça. Heureusement, pas mal de gens s'y mettent ou continuent à le faire, et il faut qu'on arrive à être de plus en plus nombreux pour que ce soit plus facile à faire, ou en tout cas plus...
Bon, il y a des gens qui résistent, on peut en parler là, il n'y a pas... Allez. Ah si, il y a un petit truc.
Et on en parlera, France. Oui, mais de toute façon, à nous les étrangers, bienvenue,
s'il y a des trucs que tu veux lire après, si tu veux. Non, les...
Rapproche-toi un peu du micro pour...
À France-Afrique, alors, pour rester encore toujours à France et les trucs qui nous concernent, où on a des responsabilités... Jean-Yves Le Drian avait exclu officiellement une nouvelle opération en Libye, mais en réalité, les opérations militaires ont déjà commencé. Les États-Unis ont ouvert une base militaire dans le sud de l'Espagne, placée sous le commandement des forces américaines en Afrique, l'Africom, et la France, quant à elle, a procédé à des vols de reconnaissance. Ça, c'est dans le billet d'Afrique numéro 253. Alors, par une autre agence, en réponse à ces sources non autorisées, un représentant du Daesh a indiqué que l'État islamique ne cherche pas à acquérir l'arme nucléaire, car ses adversaires ont déjà des centrales nucléaires. Ça vient de l'agence La Famille.
Oui, nous avons déjà les bombes chez nous. Merci De Gaulle et compagnie.
En Turquie, l'objecteur Yanis Vasilis Yayali a été condamné le 6 janvier à 6 mois et demi de prison pour avoir détourné la population du service militaire. Il avait écrit des articles défendant l'objection de conscience en s'opposant à la guerre dans les régions kurdes. Il reste libre en attendant le verdict de la cour d'appel. Par ailleurs, l'armée turque avait tué 360 personnes, dont 61 enfants, dans les villes kurdes depuis juillet 2015. Ça vient du BEOC, le truc des objecteurs de conscience en Europe. À Chypre, un 10e objecteur réserviste de Chypre Nord s'est déclaré en janvier. Il programme son opposition au militarisme, à la préparation de la guerre et s'engage pour la paix. Ça, c'est toujours du BEOC. En Israël, là, c'est une info de l'International des résistants à la guerre. L'objectrice Tahir Kaminer a été condamnée 2 fois à 20 jours de prison. Pour sa part, Tana Golan a refusé de faire partie d'une organisation raciste, fanatique, discriminatoire et oppressive. Elle a également été condamnée à 20 jours de prison. Une pétition est en cours sur le site de l'IRG. Alors, si vous voulez aller signer cette pétition...
L'organisation en question dont on parle, c'est le service militaire. Elle a refusé de faire son service militaire. L'organisation oppressive, raciste,
ouais, ou
et
d'aller
compagnie.
Dans les trucs de... Ouais, pour occuper les trucs en Palestine, là, ouais. Oui, il y en a plein de refusniques et compagnie de lecteurs en Israël, heureusement. Et beaucoup de femmes, souvent c'est des femmes qui sont les soumises.
Et oui, puisque le service militaire, enfin toutes ces opérations sont obligatoires pour les hommes comme pour les femmes. Et donc les femmes se retrouvent à refuser. Alors on ne sait pas statistiquement, est-ce qu'elles refusent plus facilement
Ça correspond plus à leur... Nous, on a été formatés. Par la brutalité, tout ça. On a ça dans les gènes, alors c'est vrai que c'est plus...
Mais je suppose que là, enfin, dans les gènes, on ne va pas aller jusque-là quand même. Enfin, en tout cas, je ne te suis pas. Mais en tout cas, on peut supposer que la société israélienne est très formatageuse, formatrice, y compris pour les femmes.
On vient de la nature, on vient de l'homme de... Il fallait se défendre contre les bêtes sauvages avant.
Bien sûr, alors que les femmes n'avaient juste à cligner des yeux et les bêtes sauvages se mettaient à genoux, c'est bien connu.
Bon, il y a l'autre, en Espagne alors, en Andalousie je crois. Ouais, les militants de RANA, Réseau Antimilitariste et Non-Violent d'Andalousie, ont manifesté en janvier pour dénoncer la construction de navires de guerre destinés à l'Arabie. À l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas que la France qui vend des armes, hein, évidemment. L'entreprise Navatia Cadiz va gagner plus de 3 000 millions d'euros dans la vente de ses corvettes, promettant de l'emploi militaire dans les provinces de la Corogne et de Cadix. Ici comme ailleurs, il demande une reconversion dans les programmes de construction navale militaire en production civile. C'est de l'info de l'IPB.org. Ukraine, le 5 février, a eu lieu à Ivano-Frankivsk le procès de Rustem Kotsaba, journaliste et objecteur de 49 ans. Il avait déclaré préférer faire 5 ans de prison plutôt que de tirer sur des concitoyens de l'Est. En encourageant ses concitoyens à en faire de même, il était en détention provisoire avec la double accusation de trahison et d'entrave à l'action de l'armée. Il a expliqué son aversion envers toutes les guerres et s'est prononcé contre le service militaire. Des pacifistes allemands de la DFGVK et de Connexion sont venus pour témoigner lors de son procès. Ça vient justement d'une organisation allemande, Connexion Deutschland. Au Myanmar, c'est Birmanie, ça, Myanmar, un militant a été condamné à 6 mois de prison pour avoir critiqué l'armée sur Facebook. Les autorités de Myanmar continuent d'arrêter et d'emprisonner des défenseurs des droits de l'homme. Ça, c'est des infos qui viennent de War Register International. International des Résistants à la Guerre. Elle est sur le site, là, c'est très intéressant. C'est wri-irg.org. wri-irg.org. Il y a plein d'infos. Et en français aussi. Hein.
Merci. Donc ça, c'est des infos qu'on retrouve, qui s'appellent Nouvelles du Front et qu'on retrouve dans l'Union Pacifiste.
Ouais, il y a aussi des trucs, si vous voulez, des petits trucs sur le tour du monde. C'est sur les ventes d'armes. Il y a plein de trucs. Bon. Il y a l'article. On peut lire. Si tu veux, tu liras le truc sur les. Ah mais tu voudras lire. C'est un truc sur les femmes après là. C'est du JD au féminin.
Donc 20h15 sur Radio Diwa. Pendant que vous mettez. Écoutez, je propose qu'on fasse une coupure musicale pendant que du coup on s'organise pour la suite de l'émission. Donc une émission qu'on fait, qu'on tricote au fur et à mesure pour vous en direct et en public. Et où voilà, quand du public arrive, des fois il peut dire oui, je veux lire. Mais c'est aussi possible, rappelez-vous, hein, de venir en public et de ne rien dire. Allez, on écoute. Bon, bah, vous retrouverez bien vous-même ce qu'on écoute.
Sing it. dance in the fields, hearing whistle through the trees, see him hammer, hammer and shake. There are folks I've been missing. Folks, I've been missing. There are folks I've been missing. There are folks I've been missing. Hear her voice like a lullaby.
Eh bien voilà, on reprend. Donc vous avez reconnu ce groupe mythique du Diwa qui a percé, sa percée fulgurante a déjà été en jouant des concerts. Voilà, là vraiment, c'est après, avant de faire une émission de radio qui a marqué les esprits de la jeunesse et, et aussi des plus âgés. Enfin, voilà, il s'agit donc des Moonshiners. On peut les retrouver, cette émission Bonjour aujourd'hui. Et enfin, ils ont fini de se rendre vraiment très célèbres en annulant coup sur coup deux concerts à 15 jours d'intervalle. Et là, c'est la ruée vers des non-concerts. Puis je n'ai absolument aucune date à vous annoncer, mais retenez ce nom si vous le connaissiez déjà. Apprenez-le si vous ne le connaissiez pas. Moonshiner, peut-être qu'on aura l'occasion de les entendre. Alors, on aura un autre concert, en fait, qu'on ne vous a pas annoncé. C'est avec notamment un groupe qui participe, qui est Mintao. Je ne connais pas les autres noms. C'est un concert de dub, mais qui n'est pas organisé par le Psychobidub. Donc voilà, c'est aussi à souligner et qui aura lieu au Théâtre de Die samedi soir, 12 mars. C'est encore une des soirées, sachant qu'il y a encore une soirée aux Agités du local dont on ne vous a carrément pas parlé. Et de toute façon, comme il n'y a pas de fly à la radio, voilà, on ne vous en dira pas plus. Avis aux amis des Agités du local, n'hésitez pas, quand vous faites des annonces, à aussi poser des flys de vos annonces. Et Mintao, pourra peut-être vous passer un morceau de tout à l'heure. Pierre, on enchaîne sur des brèves.
Ok, ben on va essayer de. J'ai essayé de trouver des nouvelles qui donnent un peu la pêche, qui allent dans le pacifisme, qui donnent envie d'aider son prochain, enfin, surtout quand il est dans le besoin. Mais ce n'est pas facile. Il y a des trucs avec les Nations Unies, conférence du désarmement. Le désarmement nucléaire reste la grande priorité pour le groupe des pays non alignés. Alors, si vous voulez aider les pays du tiers-monde, leur grande priorité, c'est que le désarmement nucléaire avance. Parce que les pays de l'OTAN ne font pas grand-chose pour que ça avance. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore... Le Conseil des droits de l'homme examine périodiquement... le Qatar et au Nicaragua, intervenant... Attends, ça, j'ai pas... Où c'est que j'ai mieux repéré ça?
Bon, alors, cherche tranquillement ton texte. Moi, j'ai aussi... Tu parlais de bonnes nouvelles. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous annoncer quand même la lettre des bonnes nouvelles. Vous connaissez peut-être, car c'est le numéro 5. Des médias libres pour un autre monde... le passé est histoire, le futur un mystère, aujourd'hui est un cadeau, et c'est pour ça qu'on le nomme présent. Et c'est la lettre des bonnes nouvelles, comme son nom l'indique, se donne comme objectif de ne donner que des bonnes nouvelles. Alors là, c'est un papier entre les mains, je vous ai dit le numéro 5. Elle est organisée, elle est faites aussi avec, par exemple, Ardèche Against the Machine. Et voilà, l'état d'urgence pour lui faire oublier des tas d'urgences. Et alors, je vais lire une bonne nouvelle prise au hasard. Bonne nouvelle numéro 220. Le Salvador bannit le pesticide de Roundup de Monsanto, le géant des OGM, et connaît des récoltes records. Voilà, par exemple, une des bonnes nouvelles qu'on peut trouver dans la lettre des bonnes nouvelles. Merci pour ton acclamation, très cher public.
Là, j'ai un petit truc à lire. Alors, c'est sur le... Ouais, mais par rapport au Qatar, là. Le Conseil des droits de l'homme, l'examen périodique du Qatar et du Nicaragua, il est saisi. Le groupe de travail intergouvernemental a été saisi sur les droits à la paix et entame un débat général sur les mécanismes de protection des droits de l'homme. Mais à la conférence du désarmement, des fois, ça doit aller dans le blabla qui n'ont pas bien de suite parce que, intervenant à l'occasion de la journée de la femme, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté indique vouloir s'investir dans des instances qui sont plus prometteuses. Il faut dire qu'elles étaient présentes à un débat sur les garanties négatives de la sécurité. Ni guerre, ni état de guerre. Alors, un collectif contre la guerre vient de se créer. Après un appel paru dans la presse en novembre dernier, plusieurs réunions hebdomadaires fortes de la participation d'individus et d'associations se sont tenues à Paris depuis le début de l'année, débouchant sur cet appel que l'Union Pacifiste de France a signé. Les organisations qui sont... On peut l'avoir sur la liste. Alors je vais lire le texte fondateur du collectif, où il faudra qu'on décide si on s'engage en tant qu'association. Alors la France était en guerre bien avant les attentats du 13 novembre. Ben, déjà l'été, François Hollande me rappelle qu'il parlait que la France était en guerre. Lesquels ont largement servi de prétexte à intensifier ses engagements militaires. Les guerres de pillage pour le contrôle des ressources n'ont pas manqué depuis le début des années 2000, en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Centrafrique. Ces conflits doivent être désignés par leur nom. Ce sont des guerres d'ingérence impérialiste. La France n'a aucun rôle positif dans ces interventions. Malgré ses prétentions puisées à l'ancien répertoire colonial. Les interventions militaires que mène l'État français sont très largement invisibles dans les médias. Le peu qui en est dit impose un consentement au nom d'une logique sécuritaire, avec ou sans habillage humanitaire. Le discours belliciste entend anesthésier et tétaniser la population. Pourtant, comment ne pas rappeler les désastres que sèment ces guerres? Les millions de morts, de blessés et de déplacés, la misère, le désespoir, jetant les populations sur les routes, tandis que s'enrichissent les profiteurs de guerre, les multinationales vendeuses d'armes, la France tenant en la matière le quatrième rang mondial. Ceux qui sont devant nous, ils ont beaucoup de population. Ce sont aussi des dépenses colossales qui détournent l'argent public des dépenses sociales, culturelles et écologiques vitales. De surcroît, l'État qui mène ces guerres, en pompier pyromane, nous entraîne dans une spirale infernale ayant pour effet de renforcer la haine qui débouchera sur d'autres attentats. Les rafales tuent des civils aussi innocents que ceux du Bataclan. Ces bombardements sont des bombes à retardement. La guerre devient désormais un moyen de gouverner par la peur. L'état de guerre proclamé justifie la privation croissante des libertés et des mesures directement inspirées de l'extrême droite, comme la déchéance de nationalité. Cette situation d'une extrême gravité passe pourtant pour une évidence dans le discours politique dominant, comme s'il s'agissait de banaliser la guerre et de nous habituer à cet état martial et sécuritaire, car l'état d'urgence vise à museler les colères et les luttes. Cette guerre est aussi une guerre sociale. Nous nous opposons aux guerres d'ingérence et de spoliation, donc à tous les impérialismes. Mais nous sommes en France, et c'est donc en France que nous pouvons nous battre en priorité. C'est notre propre impérialisme. Nous pouvons le faire concrètement, sans abstraction ni proclamation, parce que les questions géopolitiques qui se jouent parfois à des milliers de kilomètres ont des résonances fortes ici, dans nos quartiers. C'est pour cela que la lutte de notre collectif passe par le combat contre tous les racismes, et notamment le racisme anti-musulman, contre les inégalités et les discriminations, le soutien aux migrants et aux sans-papiers, l'opposition aux mesures d'exception et au contrôle généralisé des populations qui ciblent en priorité les personnes musulmanes et supposaient-elles les quartiers populaires et les mouvements sociaux. Il nous faut donc nous organiser, riposter par une résistance à la hauteur de ce que nous subissons, à la hauteur des guerres qui se font contre les populations, contre nous et en notre nom. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer un collectif contre la guerre qui exige l'arrêt immédiat des interventions militaires françaises, le retrait des bases militaires, la fin des traités et des alliances, l'OTAN, l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord, dénonce le marché des ventes d'armes qui irrigue entre autres les pires dictatures, combat la mutilation de la société, le quadrillage des territoires et des esprits par le complexe militaro-sécuritaire. En quatrième, soutient le droit à l'autodétermination des peuples, apporte sa solidarité aux forces de résistance et d'émancipation. Voilà le projet de société, enfin non, c'est pas un projet de société, disons c'est un projet de résistance. Ben, je crois que ça serait dur de pas le signer, ça.
Ah ben voilà, tu l'as dit, alors on peut toujours chipoter hein, quand il y a une phrase qui dit « La guerre devient un moment, un moyen de gouverner par la peur ou la terreur. La guerre a-t-elle jamais été autre chose qu'un moyen de gouverner par la peur ?» Et ce n'est pas de maintenant qu'il s'agit. Mais tout à fait, ce texte me semble très sain. Il faut bien dire que, aux yeux des tenants de l'ordre établi, du patriarcat capitalisme, de l'ordre et de la sécurité, bien entendu, au sens bourgeois du terme, eh bien, il s'agit d'un texte de haute trahison. Donc, il est possible que les locomotives, la paix, s'associent à cet acte de haute trahison envers les dominants. Mais je dis ça en référence à l'accusation dont est victime cet objecteur ukrainien. Oui, il s'agit d'être traître aux causes dominantes et meurtrières qui, pour l'instant, ont le dessus. En tout cas, en l'apparence du dessus. Même si, sous-jacentement, si nous tenons encore le coup, c'est que la solidarité est toujours la plus forte. Voilà, mais donc on a tout à fait...
Il faut vraiment aller dans la solidarité, dans l'entraide. Il ne faut pas aller dans les... On n'est pas encore dans les trucs d'aller dans les actions de sabotage ou autre. Hein, ça, c'est certain. C'est surtout ce qu'il faut éviter. Mais quand on montre que c'est la violence qui gagne... qu'on peut résoudre des trucs par la violence, par l'armée, surtout quand c'est des combats qui sont tellement déloyaux, ça rend les djihadistes, même les barjots qui sont cagoulés et compagnie, là, qui volent, qui te prennent et qui te torturent, ça les rend sympathiques quand on voit ces pourritures de militaires qui simplement appuyant sur des boutons, ils bombardent des innocents. Ça les rend sympathiques. C'est dingue, ça. Il faut vraiment quitter ce truc-là. Et il faut aller vers les trucs d'objection à l'impôt, de le travail au noir. Ça le valorise, le travail au noir. Tu te rends compte, dans l'état pourri dans lequel on est, moi, je...
Mais quand tu dis que ça rend sympathique, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement en France en ce moment qui soutient, tout un mouvement hyper marginal, hein, bien sûr, qui soutient le président de la Syrie, Bachar el-Assad, sous prétexte qu'il s'en prend, sous prétexte qu'il est aussi...
Officiellement dans la lutte contre l'État islamique.
Et qui.
C'est que tu voulais dire.
Non, je voulais dire
oui,
que.
Pourri qui s'accroche à son pouvoir.
Voilà, qu'il n'est qu'un pourri qui s'accroche à son pouvoir, mais qu'il n'est qu'un pourri, qui n'est pas un résistant à la guerre en tant que tel. Mais le fait qu'il y ait la guerre dans le pays dont il est le président très fortement autoritaire, eh bien, finit aussi par le rendre sympathique. Alors que non, on peut aussi le dénoncer et dénoncer tous les terroristes. C'est pas une bonne façon de combattre la guerre, mais c'est vrai qu'on est parfois poussé à la détresse et on fait des conneries.
C'est dans la logique actuelle. Non, c'est important de pas. Il faut pas chercher de coupables. Il faut prendre aussi conscience que c'est l'humanité, c'est l'espèce humaine qui est dans un déséquilibre. Il faut qu'on assume le type de développement qu'on a engendré. Il faut qu'on trouve des solutions de manière digne. Et ça manque beaucoup par contre. On peut lire l'article sur le commerce de l'armement et de la corruption, et sur la corruption. Là.
Il a l'air long, je ne sais pas combien de temps on prendrait la lecture, mais on peut en commencer une partie.
C'est un article qui était...
On peut se partager la lecture, peut-être tu peux le commencer.
C'est celui qui vient de lire.
Je pourrais enchaîner aussi quand...
Est-ce que tu en as lu le...
J'ai rien, non, il n'y a rien.
En résumé... Le commerce mondial des armes est un secteur qui chiffre ses profits en milliards et ses coûts en vie humaine. C'est indiscutablement de tous les commerces celui qui cause le plus de dommages, comptant pour environ 40% de la corruption totale. Il a une influence colossale sur la façon dont votre gouvernement opère, assurant que la guerre est une option préférable à la diplomatie. Or, nous dépensons des milliards de dollars chaque année pour des armes dont, souvent, nous n'avons pas besoin. Cela perpétue les conflits, nous rend plus fragiles et entraîne la répression. On y va. Les dépenses militaires mondiales étaient estimées à 1770 milliards de dollars en 2014, ce qui représente plus de 250 dollars par jour et par personne. C'est en baisse de 0,4% par rapport à l'année précédente et correspond à 2,3% du PIB. En Asie et en Océanie, ces dépenses ont augmenté de 5% en 2014, soit 62% sur les 10 années précédentes, atteignant 439 milliards de dollars. La Chine parvient à la deuxième place dans le monde derrière les États-Unis, qui supportent presque la moitié des dépenses militaires mondiales. La Corée du Sud se classe 10e, ayant accru ses dépenses de 2,6% par rapport à 2013. Le Japon est 9e. Même pendant la crise financière mondiale de 2007 à 2012, le commerce des armes a cru de 24%. La Grèce s'est probablement fait avoir, vu son gouffre fiscal, par 2 milliards de dollars de contrats corrompus avec l'Allemagne. Les armes légères, représentent au moins 8,5 milliards de dollars par an, mais leur impact mortel par jour est bien plus important que ne le suggère ce montant. Dans le monde, l'estimation annuelle est d'environ 526 000 morts violentes dues aux guerres et aux criminels. La majorité de ces décès est causée par des armes légères. Le commerce des armes lourdes ou légères restant évidemment une dimension importante de la défense nationale et un contributeur pour l'économie, bien qu'exagéré, a un impact additionnel profond sur le monde. Il permet, il alimente et il perpétue les conflits et la répression jusqu'à l'érosion de la démocratie. Les contrats d'armement s'étendent dans toute légalité et moralité, sur le marché officiel ou sur le marché gris ou noir, ce qui peut être appelé le monde de l'ombre. En pratique, les frontières entre les trois marchés, officiel, gris et noir, sont floues. Ils sont souvent imbriqués et dépendants les uns des autres. Avec la corruption comme point commun, très peu de transactions sur les armes n'impliquent pas de côté illégal, la plupart à travers des intermédiaires ou des agents commerciaux. Beaucoup de marchands d'armes qui fournissent leurs services à nombre de sociétés militaires ou industrielles et au gouvernement continuent d'opérer dans les marchés gris ou noirs. Joe Reuber a calculé que le trafic des armes compte pour 40% dans la corruption totale du commerce mondial. Le ministère américain du commerce, dans une étude sur 5 ans des transactions avec corruption impliquant les affaires nationales, a trouvé que la moitié concernait le secteur de la défense. Pourquoi le commerce des armes est-il un tel terrain pour la corruption ? Robert, dans son étude, prouve que le commerce des armes est largement branché sur la corruption. La structure même de ce trafic explique la nature corrompue qui le caractérise. Les contrats valent de gros montants et sont décidés par un très petit nombre de personnes abritées derrière une sécurité nationale qui impose le secret, autant de conditions parfaites pour une corruption effrénée. Ajoutons à cela l'érosion des institutions démocratiques et les rapports entre pays acheteurs et vendeurs qui accroissent l'instabilité dans les États fragiles, les coûts massifs liés au développement socio-économique et la sécurité nationale elle-même que ce commerce est censé renforcer. Ceux qui sont impliqués dans ce commerce exercent une énorme influence politique à travers le phénomène du renvoi d'ascenseur. C'est le jeu des chaises musicales entre les postes au gouvernement, en politique, dans l'armée, les officines de renseignement et les entreprises liées à la défense. Les conséquences en sont une distorsion de la pratique politique, pas seulement dans la prédominance de la fabrication de la guerre sur la diplomatie, mais aussi dans les décisions de politique étrangère et économique. Une dimension cruciale de ces arrangements se trouve dans le lien entre les entreprises de défense, les marchands d'armes et les partis politiques. Le commerce de l'armement joue un rôle clé dans le financement des partis politiques. Ces élites de la sécurité nationale manipulent un pouvoir exorbitant tout en s'enrichissant et opèrent avec, dans une sorte d'univers légal parallèle car elles font rarement face aux conséquences juridiques de leurs actions, souvent illégales. Par exemple, sur les 502 violations des embargos de l'ONU sur les armes que nous avons enregistrées, 2 ont abouti à des poursuites judiciaires et une seule à une condamnation. J'ai fait l'expérience formelle de cette industrie en Afrique du Sud, où la démocratie naissante a été profondément sapée par un contrat d'armes de 10 milliards de dollars, dans lequel 300 millions de dollars de pots de vin ont été versés à des hommes politiques chevronnés, à des officiels et dans mon propre parti, l'ANC. L'Asie a grandement souffert dans les mains des marchands d'armes comme victimes et acteurs. Des guerres ont été conduites sur le continent afin d'assurer que les pays producteurs du Nord ne soient jamais à court de commandes toujours croissantes. Cependant, à l'intérieur, la plupart des pays asiatiques ont connu dictature, régime militaire et, même dans les démocraties, un capitalisme de connivence, tous aidant les industries nationales d'armement à prospérer. Les États-Unis dépensent presque autant pour la défense que tout le reste du monde. Leur trafic d'armes est fondé à la fois sur la protection des entreprises de la défense, les groupes de pression, les législateurs, la Maison-Blanche et le Pentagone, où 84% des officiers supérieurs retraités en 2010 ont pantouflé dans des postes de direction des sociétés avec lesquelles ils avaient passé des contrats pendant toute leur carrière. Ce système légal de pot de vin présente de nombreuses conséquences délétères. Guerre perpétuelle, coup d'État et autres déstabilisations de pays clients, outre le gaspillage massif d'argent aux États-Unis. C'est patent avec les F-35, un avion de combat qui coûtera aux citoyens américains environ 1000 milliards de dollars, mais qui n'est pas adapté au type de conflit dans lequel le pays se trouve actuellement engagé ou serait impliqué dans les générations à venir. Autre exemple, la pression politique exercée sur la Corée du Sud pour qu'elle achète des produits américains dans les années 2000. Ce pays a dépensé 4,5 milliards de dollars pour un chasseur américain qui était plus cher et moins performant que ses rivaux, mais l'Amérique a fait clairement comprendre que la Corée du Sud, en cas de refus, serait privée de soutien politique et empêchée d'accéder à un niveau de technologie militaire. Pire, les États-Unis continuent de fomenter des oppositions et des conflits dans cette région, au bénéfice de leur propre position mondiale et pour le plus grand bien du complexe militaro-industriel. Les fabricants européens d'armes ne valent pas mieux. La firme allemande Ferrostal a payé plus de 1,1 milliard d'euros de pots de vin dans 16 pays différents, dont plus de 42 millions à un intermédiaire en Corée du Sud qui avait déjà été condamné pour corruption et était connu pour ses relations étroites avec des hauts politiciens dans son pays. Dans quelques années, l'industrie de défense sud-coréenne, depuis quelques années, l'industrie a réorienté sa production jusque-là liée à ses propres besoins domestiques vers l'exportation des armements, en particulier dans la région. Ces exportations sont passées de 144 millions de dollars en 2002 à 3,6 milliards en 2014, avec un taux annuel de croissance de 31% sur les 5 dernières années. L'impact de cette croissance, alimentée par la coopération technologique avec les États-Unis, réside à la fois dans la déstabilisation de la région et la croissance du retranchement dans ses préjugés militaristes. La Corée du Sud a également vendu des armes à l'Irak ravagé par la guerre, à l'Indonésie en situation troublée, à la Turquie belliqueuse et à l'Azerbaïdjan violeur de droits de l'homme, pour citer quelques cas. De façon cruciale, la vente des armes conduit inéluctablement à un retour de flamme. Le phénomène se retourne contre ceux qui ont fourni les armes en un cercle vicieux. Toujours plus d'armes et de conflits. L'espace pour la paix devient de plus en plus petit alors que gonflent les profits des fabricants d'armes. Le commerce des armes est étonnamment sous-réglementé parce qu'il n'y a pas de volonté de le contrôler. C'est à nous de faire changer leur façon de faire au plus gros de tous les marchands d'armes, nos leaders politiques, par des boycotts à la fois politiques et économiques, les manifestations et l'action directe. Car si nous acceptons tout simplement le statu quo comme immuable, le commerce des armes va continuer à appauvrir le monde, à le rendre moins démocratique, plus corrompu et plus dangereux. Cet article est d'Andrew Feinstein dans la revue Le Fusil Brisé, paru en décembre 2015, c'est le numéro 104. Lui est l'auteur de La face cachée du monde à l'intérieur du commerce mondial des armes. Un film tiré de son livre sera disponible aussi en 2016. C'est un ancien membre de l'ANC, le parti qui a pris le pouvoir après l'indépendance, le parti Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et il est actuellement à Londres, un directeur exécutif de l'Observatoire anglais de la corruption. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces infos dans l'Union pacifiste.
De ce mois.
Et moi, ça m'évoque en fait la situation qu'on a en France où on a une collusion phénoménale en fait. Et un empilement en fait entre les marchands d'armes, les marchands de médias et la proximité avec le système politique en fait. Des gens comme Serge Dassault, le groupe Lagardère, etc. sont des exemples de ce resserrement entre la fabrication de la guerre dans les esprits des gens, la fabrication des armes concrètement, la vente d'armes et le financement en retour par des rétrocommissions, par des mécanismes de corruption, que ce soit en Angola, en Iran, on commence à connaître des dossiers des années, des décennies précédentes, mais encore aujourd'hui ça continue. Et en fait on nourrit par notre aveuglement, en continuant à acheter la grande presse qui est celle du fabricant d'armes et qui nous convainc que la guerre contre le terrorisme est la nécessité du moment et que pour cela, il faut que tout le monde ait un flingue à la ceinture, flic ou autre, et que bientôt, peut-être, on va rétablir le port d'armes en France pour permettre que chacun soit en sécurité face à un ennemi, son voisin ou son enfant devenant son ennemi, parce que on nous aura fait rentrer dans la tête et qu'on aura laissé faire dans nos têtes qu'il y a une nécessité à la guerre, comme ça. Et en fait, à qui est-ce que ça profite ? À des fabricants d'armes. Et qui sont ces fabricants d'armes ? Ce sont ceux qui portent cette croissance, en fait. La croissance économique telle qu'elle est calculée aujourd'hui, eh ben, les chiffres de la croissance, en fait, quels sont les derniers bastions de la croissance ? C'est le moteur de la guerre. C'est l'industrie aéronautique, c'est les sociétés de contrôle, c'est tout ce qui fait la surveillance, les portiques, les caméras, les flingues à la ceinture, tout ce qui vise à nous enfermer les uns... Voilà, chacun chez nous avec
côté faussement sécuritaire.
Voilà,
moi j'aimerais mettre oui, en avant.
Qui sont les mêmes aussi qui éditent les livres d'histoire, les manuels scolaires, dont les livres d'histoire. Et donc on continue aussi de mettre ça dans la tronche de nos gosses quand on les envoie à l'école. Hein, et à l'école publique en tout cas, ou à l'école qui utilise les manuels faits par ces mêmes Lagardère et Hachette et.
Et qui justifie les guerres coloniales du passé et d'aujourd'hui, qui justifie les rapports de domination où finalement il est légitime que la République se défende face à tout un tas d'ennemis.
Donc pas d'éducation à la paix dans les écoles, ce serait vraiment contre la croissance. Tu allais dire Pierre, pardon, je t'ai coupé.
Non, mais je suis d'accord, mais moi je voyais surtout le rapport entre les ventes d'armes et la corruption, c'est au niveau éthique, ça va tellement bien ensemble, parce que les gens qui vendent des armes, qui emportent, un être humain, enfin dans une démocratie, quelqu'un qui est armé, à moins que ce soit par la profession, c'est quelqu'un qui a peur, qui est pas, il y a un côté lâcheté d'avoir une arme.
Oui, et quelle profession justifie-t-elle d'être lâche alors
Non, mais c'est par institution, c'est encore notre.
C'est de la lâcheté assermentée.
Mais derrière l'uniforme du gendarme, il y a un humain qui a peur. On peut aussi voir ça.
Non, qui a peur d'être au chômage. Mais il y a beaucoup là.
Oui, aussi qui tremble du fait d'avoir une arme.
C'est pas ça que je veux te dire.
Tu veux dire à tous les auditeurs auditrices. On n'a pas d'ailleurs signalé qu'on est sur Radio Diwa sur le 107.5 et qu'on peut aussi sur rdwa.fr. Vraiment, on l'a pas fait en début d'émission. C'est le moment et qu'on retrouve toutes nos émissions en podcast sur le site de Radio Diwa et sur le site donc sur la page Feu de tout bois. Aussi, mais c'était pour cette annonce. À toi.
Continue, Pierre.
Continue.
Ouais, non, c'est, on peut parler d'autre chose. Hein,
je vais, mais je vais aller dans ton sens par rapport à la corruption, à la vente d'armes et à la corruption.
Non, si tu veux, il faut aborder le truc, c'est le côté, il y a le côté pouvoir qui est omniprésent là-dessus. Ce sont des gens qui croient que la vie, c'est que des, c'est le plus fort qui gagne, et c'est vrai à un certain niveau. Ça, c'est, on le voit dans la jungle, hein, le plus fort qui gagne.
Et quand sait-on, c'est une vision anthropocentrique, là, on n'en sait rien, si dans la jungle, vraiment, le plus fort gagne. Est-ce qu'il gagne le plus fort? Alors que le plus faible gagne aussi. La petite plante qui se passe complètement de soleil parce qu'elle est au ras du sol, elle gagne aussi, alors qu'elle est très faible.
Elle survit aussi, ouais.
Elle survit, mais elle vit, non, elle a sa place.
Je vais essayer de rentrer dans
niveau,
ce que tu proposes.
Non, mais au niveau... Non, restons au niveau... des conflits entre hommes dans notre espèce.
Humain, ouais.
Là, au niveau matériel, quand il y a des divergences ou autres, quand on pense qu'on résout ces trucs, qu'on peut les résoudre par des manières militaires, c'est qu'on croit que la violence, que la force, elle gagne.
Oui.
Et c'est vrai à un certain niveau.
Bah, je suis pas sûr. Je vois pas à quel niveau c'est vrai.
Alors, par exemple, moi, je vais aller dans ton sens. Quelqu'un qui s'estime être légitime et qui est, en fait, légitime ou pas, il est dominant. La réalité, c'est qu'il est dominant. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, quelqu'un va s'estimer légitime, mais en fait, sa position réelle, observée, c'est d'être dominant d'autres. D'accord ? Par exemple, un porteur d'armes sur quelqu'un qui, face à lui, est désarmé. Lui, il va s'estimer peut-être légitime à porter son arme.
Ça peut être un vendu, hein. Souvent c'est des mercenaires.
Par contre, la réalité observée, c'est qu'il sera dominant sur celui qui ne porte pas d'armes. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il peut sortir son arme et pointer la personne qui ne porte pas d'armes. Ça, dans la situation internationale, c'est que par exemple, il y a des États qui sont beaucoup plus armés et des États qui sont beaucoup moins armés. Il y a des États qui sont porteurs d'armes et qui en plus ont fabriquent des légitimités à intervenir dans des guerres face à des États ou des populations qui sont désarmées. Donc, ils vont se fabriquer une légitimité à coup de résolution, à coup de morale antiterroriste, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils sont dominants et qu'ils vont aller dominer celui qu'ils estiment légitime de combattre. Cette domination, puisqu'ils ont peur de perdre cette position de domination, comment est-ce qu'ils vont faire pour l'entretenir, notamment à coup de corruption? Pour fabriquer une fausse légitimité, il va falloir corrompre quelque part. Il va falloir mentir. Et pour que ce mensonge passe, il va falloir passer des billets sous la table. Il va falloir trouver des moyens de pérenniser cette situation de domination.
Et après, on peut dire que ça se passe comme ça.
Et donc, je pense que la vente d'armes et la corruption, ouais, sont inhérentes, en fait. Que la corruption fait partie du pouvoir.
De l'autre côté, on ne regarde pas des valeurs humaines. On regarde qu'on n'est que dans l'accumulation, le pouvoir... On n'est pas dans le respect.
Ça me rappelle la citation d'un vendeur d'armes français, je ne sais plus lequel c'est, parmi nos champions nationaux de l'industrie et d'armement, qui disait « Mais moi, je ne suis pas responsable de ce que font les gens qui m'achètent les armes. Moi, je ne fais que leur vendre.
» Très bien, il est dédouané, quoi. Alors, c'est bon, on l'absout.
Il est très participant, il faut prendre conscience qu'on est très participant quand on est dans ce cas-là.
Et qu'on en est cette logique. Et tu as abordé le thème de la croissance, Pierre et Jean B aussi. Alors c'est l'occasion de revenir à ce journal des bonnes nouvelles. C'est la bonne nouvelle numéro 337, Vive la décroissance, journal mensuel de la joie de vivre, poil à gratter qui fait bouger les cervelles, à découvrir chez votre marchand de journaux. Voilà, c'est une des bonnes nouvelles de cette lettre des bonnes nouvelles, ce journal de la décroissance que je pleure chaque semaine de ne pas pouvoir le chroniquer ici. Qui le lit ici? Tu le lis, toi, Pierre, des fois, le journal de la décroissance?
J'ai pas le temps. Moi, je suis à fond pour la décroissance. Hein. Il faut être dans la simplicité. Il faut vivre de manière humble, si on veut. Il faut vivre de manière respectueuse, en pensant que il faut prendre conscience de l'état du monde, hein, de l'état de la Terre. Et il y a des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Si on regarde les choses en face, si on est rationnel, on sait qu'au niveau de CO2, des trucs comme ça, on engendre un futur qui, ça va être la catastrophe.
Voilà, moi je connais des lecteurs et des lectrices du journal de la décroissance mensuelle, donc appel, n'hésitez pas à venir chroniquer ce journal sur Feu de Tout-Bois, vraiment. Alors là, je suis tombé sur un vieux numéro et j'aimerais lire un passage qui est en résonance avec... c'est un vieux numéro de la fin de l'année dernière, hein, de novembre peut-être. Laissons la parole à Pierre G. Nakulima, professeur à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso, qui s'exprimait ainsi dans notre dossier international de cet été, donc le dossier de l'été 2015. Alors, citation. Les politiques de développement ont privé les pays dits pauvres du droit d'orienter leur destin et les a installés dans la situation bien inconfortable qui se traduit par une double impossibilité. D'abord, l'impossibilité pour ces pays de parvenir à un développement analogue à celui des Occidentaux. Ensuite, l'impossibilité d'échapper au sous-développement en renonçant à participer au système économique international auquel est pourtant imputable leur tragédie. Le développement comme paradigme occidental est une entreprise visant à transformer les rapports des hommes entre eux et avec la nature, en marchandises. Il s'agit d'exploiter, de mettre en valeur, de tirer profit des ressources naturelles et humaines. C'est une entreprise agressive envers la nature comme envers les peuples. C'est ce modèle de développement qui domine la planète depuis plusieurs siècles, engendrant les problèmes sociaux et environnementaux actuels, exclusion, pauvreté, pollution diverse, etc. Il ne peut plus se poursuivre. Donc voilà, le journal de la décroissance à retrouver tous les mois et qui là aussi fait le lien et que c'est un système global auquel on s'affronte et desquels dans Feu de Tout-Bois on est les traîtres aussi ou les déserteurs ou
On pourrait s'évonner la décroissance. Il y a plein de trucs.
Eh bien, oui, ce serait. On pourrait. Mais voilà. Ouais, on pourrait un autre passage de
non,
cette.
Non, on en fait déjà. On vit de manière simple, voilà. Sans trop consommer. Alors,
donc c'est pour ça qu'on fait appel aux gens qui lisent déjà la décroissance et qui pourraient venir nous en faire profiter même sur cette antenne. N'importe
mais j'ai
quand.
Une question, oui. Aujourd'hui,
parce que alors là, tout autant préciser qu'il est 9h-5 et que la musique que vous entendez en fond et avec laquelle on finira cette émission, c'est toujours, je rappelle quand même la date du concert, le 12 mars, Alexei Egui à Andarta avec Emma Kyo, ce violoncelliste internationalement connu qui va nous faire le plaisir de jouer après-demain. Mais n'oubliez pas de réserver, de passer en Andarta pour réserver votre place et qu'on n'aura pas le temps. Donc ce sera pour une prochaine émission de parler de ce qui se passait à Belgrade en 1999, la première grand conflit sur le sol européen, des bombardements effectués par l'OTAN. On en parlera une prochaine fois. Il nous reste quelques minutes. On en parlera une prochaine fois.
Je garde ma question pour la prochaine fois.
Il nous reste. On a le temps des questions. On n'a pas le temps de.
Non, mais c'est une fausse question en fait. C'est-à-dire que. Comment on fait pour se poser vraiment bien entre nous la question de l'emploi, de la croissance et de tous ces mythes qui nous font peur, alors que finalement, si on remet tous les éléments ensemble, cette croissance, cette fâcheuse croissance là, et cette peur du chômage, en fait, ce sont des chantages pour nous faire participer à la fabrication, par exemple, des armements et des guerres, et participer à la violence du monde, en fait. Et que peut-être on a vraiment, vraiment intérêt à repenser la question économique de fond en comble, la question du rapport au temps et au travail, directement associée à la fabrication de la violence, des armes et de. On pose pas ces questions à l'école. Est-ce qu'on se pose ces questions entre nous? Est-ce qu'on prend au sérieux la question de la décroissance? Ou est-ce que c'est juste une histoire de rigolo qu'on pas envie de bosser beaucoup, quoi?
La croissance, ceux qui sont pour la croissance. Il faut aller vers la croissance de la qualité. Ce qui fait que ça engendre... Si tu vas vers la croissance de la qualité, tu achètes par exemple un appareil haute fidélité qui dure très très longtemps. Tu vas vers des trucs inusables. Et ce qui fait que ça rejoint la décroissance. C'est aussi parce qu'il ne faut pas, il faut pas sous-entendre que la décroissance, c'est se serrer la ceinture ou autre, c'est aller vers la qualité, vers le mieux, ouais, le plus respectable, tout le monde y gagne.
Et on n'hésite pas à aborder sur cette antenne non plus cette question des émotions. On a abordé la peur, on voit que c'est une émotion qui guide les dominants de ce monde, ceux qui sont voilà, qui veulent vivre éternellement, comme les transhumanistes par exemple, et qui font des grands projets pour développer les nouvelles technologies à fond. Et ils vivent aussi dans la peur de mourir par exemple. Et si on parlait des peurs, eh bien peut-être qu'on serait moins soumis à...
Et qui nous emmènent dans leur sillage. Petit troupeau, ouais. Qui, on nous fait peur avec le chien de troupeau et on nous fait peur avec le loup qui rôde dans les parages. Donc nous, petit troupeau, il faut qu'on reste dans les pas du berger.
Pour continuer de creuser ces questions, n'hésitez pas à nous rejoindre jeudi prochain à 19h30. Les feux de tout bois, c'est tous les jeudis jusqu'à 21h. Une fois par mois, les locomotives La Paix sont très actifs, mais ils sont aussi actifs à d'autres moments, dans Feux de tout bois en tout cas. Et à d'autres moments aussi.
On peut faire un appel aussi pour les adhésions.
Alors il reste à peu près, oui, vas-y, il reste quelques secondes.
Si vous venez adhérer, si vous voulez adhérer ou nous soutenir, vous pouvez envoyer un petit chèque de 10 euros à Andarta. C'est 57 rue Émile Lorentz, 2650-10. On en a bien besoin pour s'abonner à d'autres journaux, pour les faire connaître. Et
renouveler nos abonnements aux journaux qu'on a déjà.
Ouais, pour vous offrir plus de moyens d'analyse sur les voies qui peuvent aller vers plus de paix, où on serait tous gagnants au lieu d'aller dans la direction du tous perdants qu'on continue de prendre.
Voilà, et rendez-vous samedi matin à la table de presse des locomotives La Paix. Salut, et samedi après-midi à Andarta.
Moi, je suis engagé pour un déménagement, voilà. Là, mais je passerai.
Salut à vous.
Salut.
When I was a rover, met a four-leaf clover, as Irish as the day was long. Thought she'd give it to me, maybe now she's married with a baby. I've been dodging bullets all along. Man, we were creeping, never lost no sleep, and I would cut catnip into...